Merci d'être avec nous. Il est 12h30, temps universel, 13h30 ici à Paris, 14h30 à Goma. C'est l'heure d'Afrique Midi. C'est avec vous, Nicolas Brousse. Bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Cette édition sera effectivement largement consacrée à l'Afrique centrale. Les combats entre l'armée de RDC et les membres du M23 font toujours rage. Le M23, groupe armé soutenu par le Rwanda. En conséquence, Kinshasa rompt ses relations diplomatiques avec Kigali. Nous nous rendrons dans les deux capitales ainsi qu'à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, où la situation humanitaire est tout simplement catastrophique selon l'OCHA. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence tout à l'heure. Le Ghana se dote d'un envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel. Vous entendrez en exclusivité Larry Bevlo Larté sur sa nouvelle mission. L'ONU nomme une nouvelle émissaire en Libye. Anna Serwatete sera la dixième à occuper le poste depuis 2011 et la chute du colonel Kadhafi. À suivre également une aide américaine mise en pause pour 3 mois, le temps d'une évaluation. Décision de Donald Trump qui concerne particulièrement le continent bénéficiaire de 25% du total de l'aide US. Et puis du football, du championnat anglais, certes, mais avec une pépite ivoirienne, Amad Diallo, qui pourrait bien faire la différence au sein de la prestigieuse équipe de Manchester United. Afrique Midi, le grand journal Afrique, bienvenue, on tourne ensemble la première page. Et nous partons sans plus attendre pour la République démocratique du Congo. L'Est est toujours le théâtre de combats opposant l'armée congolaise et ses alliés au groupe M23 soutenu par le Rwanda. Parmi les victimes ces derniers jours, 13 militaires déployés au sein des forces internationales. Pauline Azili, vous êtes l'envoyée spéciale permanente des RFI en direct de Kinshasa. Des combats ont lieu dans les environs de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu.
Oui, les affrontements ont repris tôt ce matin sur le front situé au nord de la capitale provinciale. On signale des détonations entendues vers Kibati, à une dizaine de kilomètres de Goma, avec des mouvements de population qui quittent les camps de déplacés présents dans le secteur vers le centre-ville du monde, aussi au niveau des postes frontières avec le Rwanda. On ne laissera pas le M23 entrer à Goma, a déclaré lors d'un point presse samedi soir le porte-parole des forces armées congolaises. Le général Sylvain Ekenge assure que l'armée est déterminée à repousser l'ennemi. C'est maintenant que la guerre commence, a-t-il répondu, face à l'ultimatum de 48 heures donné samedi par le M23 au FARDC.
Et Paulina, on attend maintenant un conseil de sécurité au siège des Nations Unies.
La ministre congolaise des Affaires étrangères est en effet arrivée à New York vendredi. Elle a sollicité une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation dans l'est du pays. Initialement programmée demain, cette réunion a été avancée de 24 heures. Elle doit se tenir dès 16 heures, heure de Kinshasa, 15 heures, temps universel. Nous ne pouvons plus nous contenter de déclarations, rappelle Thérèse Wagner, qui réclame une nouvelle fois des sanctions. Deux sources diplomatiques. On sait qu'une discussion autour des sanctions n'est pas tabou du côté des chancelleries occidentales. En revanche, ça bloque au niveau de l'Union africaine et des membres africains qui siègent actuellement au Conseil de sécurité. Si l'UA a publié un communiqué sur la situation dans l'est de la RDC hier, les autorités congolaises ont évoqué une réaction tardive et surtout confuse avec l'emploi du terme opposition politico-militaire par l'Union africaine pour évoquer le M23, qualifié, je vous le rappelle, de terroriste par Kinshasa.
Pauline Azidi, en direct de Kinshasa, la crise est donc également diplomatique. Elle atteint même son paroxysme. Le gouvernement congolais annonçait hier soir le retrait des diplomates de son ambassade à Kigali et demandait dans la foulée aux diplomates rwandais à Kinshasa de quitter le territoire. C'est donc la rupture des relations diplomatiques. Lucie Mouillot, vous êtes à Kigali où les autorités parlent de décisions regrettables.
Selon le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, le retrait des diplomates de l'ambassade congolaise à Kigali n'est pas destiné à améliorer la situation à l'est de la RDC.
Ce n'est pas une décision qui amène à la recherche d'une solution durable par rapport à ce qui se passe à l'est, mais ils l'ont pris, on doit l'accepter et la respecter.
Le gouvernement congolais a également demandé aux diplomates rwandais à Kinshasa de quitter le territoire d'ici 48 heures. Il n'y avait déjà plus d'ambassadeurs rwandais en poste en RDC depuis plus de 2 ans. Le dernier, Vincent Karega, avait été expulsé en octobre 2022 suite aux accusations de soutien de l'armée de Kigali au groupe rebelle du M23.
Il y a quelques temps, on a chassé l'ambassadeur du Rwanda, on a suspendu la coopération économique entre les deux pays, les accords commerciaux qui étaient en place. Et aujourd'hui, ce sont les employés des ambassades. C'est ce genre de décisions qui sont prises pour amuser la galerie, alors que le fond du problème n'est pas examiné pour essayer de trouver une solution durable.
Face aux dernières déclarations de l'Union européenne et des Nations unies accusant les troupes rwandaises de participer activement à l'offensive du M23 ces derniers jours, le porte-parole du gouvernement dénonce des communications déséquilibrées qui ne condamnent pas assez la collaboration entre les FARDC et des milices sanctionnées par l'ONU. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et ce midi, le Rwanda annonce à nos confrères de l'agence France-Presse avoir évacué dès hier son dernier diplomate en poste à Kinshasa. Direction à présent Goma, menacée par le M23, la capitale provinciale du Nord Kivu. Elle doit déjà faire face à l'afflux de centaines de milliers de déplacés qui s'ajoutent aux millions d'habitants. La situation est devenue intenable. La ville est privée d'électricité. Les lignes à haute tension ayant été coupées lors des combats, ce manque d'énergie entraîne également un manque d'eau courante. Il y a véritablement urgence à Goma, confirmation avec le reportage d'Héritier Baraka.
Au quartier Mabanga Sud, au cœur de la ville, c'est l'obscurité qui nous accueille. Ici, les habitants allument des torches et bougies dans leur maison pour s'éclairer. Maombi, une vieille vendeuse de maïs, se plaint aussi du manque d'eau.
Nous vivons sans eau et sans électricité depuis qu'ils ont coupé la connexion lors des combats. Nous achetons des piles et une torche qui nous aident à voir.
Un peu plus loin, Cambert et Moïssa, un jeune de Goma, qualifie cette situation inacceptable.
Et donc Goma, en ce moment, ou depuis avant-hier, est dans le noir, mais aussi l'eau ne coule pas dans nos robinets. Et donc ça, c'est très grave, parce que ce sont les éléments essentiels pour la vie de l'homme. Nous sommes en train de vivre plus que la souffrance.
La société civile locale de la ville de Goma parle, elle, d'une situation catastrophique.
Des hôpitaux qui reçoivent les blessés ont une carence en électricité, ce qui est un problème.
Vendredi dernier, la société Virunga a annoncé dans un communiqué que les lignes qui permettaient de servir Goma et Nyiragongo en électricité avaient été endommagées lors des affrontements entre les FARDC et alliés et les M23 soutenus par le Rwanda. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et depuis Goma, la société civile lance ce matin un appel à l'aide aux autorités congolaises, mais également aux instances internationales, pour contraindre les éléments de l'armée rwandaise et du M23 à quitter le territoire congolais. Écoutez John Banyemé, il préside la coordination de la société civile de la province du Nord Kivu.
Au regard de la situation sécuritaire très précaire, suite à la poursuite des combats autour de la ville de Goma et les violations graves des droits humains qui s'ensuivent, la coordination provinciale de la société civile exige au gouvernement congolais de se mobiliser pour protéger les civils en organisant des opérations militaires très musclées pour libérer toutes les zones sous l'emprise du M23 et rétablir l'énergie électrique dans la ville de Goma. Aux Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et l'Union africaine d'agir à l'UNISO pour contraindre les autorités rwandaises à retirer leur armée et ses supplétifs sur les sols congolais.
Et pour refermer ce dossier, le communiqué du coordinateur des affaires humanitaires des Nations Unies, Bruno Lemarquis, il indique que la proximité des combats dans les zones densément peuplées et l'utilisation d'armes lourdes exposent les populations à des risques intolérables. Le directeur de l'OCHA appelle ce matin toutes les parties au conflit à mettre un terme immédiat à l'escalade militaire. Il exhorte enfin la communauté internationale à intensifier ses efforts pour faire face à la crise humanitaire et sécuritaire. Nous y revenons bien sûr dans nos prochaines éditions et à toute heure sur RFI.fr. Au Ghana, le nouveau président John Dramani Mahama vient d'élargir son cabinet. Il nomme Larry Bevlo Larté, envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cet ancien haut gradé de l'armée ghanéenne fut également chargé de la lutte antiterroriste au sein de l'Union africaine. Il aura pour mission de solidifier les relations du Ghana avec les membres de l'AES, comme il le confie en exclusivité à notre correspondant à Accra, Victor Cariou.
Renforcer la coopération entre le Ghana et les pays de l'Alliance des États du Sahel afin de développer des politiques communes sur la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire ou encore la libre circulation des biens et des personnes. Voici le mandat qui a été confié à Larry Bevlo Larté, envoyé spécial du président John Dramani Mahama auprès de l'AES.
Ces dernières années, cette relation n'a pas été au beau fixe. Nous voulons donc réaccélérer cette coopération. Il ne s'agit pas tant d'établir des accords internationaux ou des choses comme ça.
Une mission purement ghanéenne, totalement décorrélée de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont la sortie officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger sera actée ce mercredi 29 janvier. Larry Bevelarté l'assure, la question de la réintégration de ces États dans l'organisation régionale ne figure même pas dans sa fiche de poste.
Ce sont des décisions souveraines que le Burkina Faso, le Mali et le Niger auront à prendre, mais le Ghana ne doit pas se mêler de leur choix. Ce n'est pas du tout une priorité pour nous.
Premier chantier de l'envoyé spécial auprès des États de l'AES, faciliter l'accès du port ghanéen de Tema pour ses partenaires enclavés. Victor Cariou, Accra, RFI.
Et au Burkina rencontre aujourd'hui à Ouagadougou des ministres des Affaires étrangères de l'AES. Objectif justement, réfléchir aux formalités de retrait de la CEDEAO. Les trois pays veulent mettre en place une position commune et une stratégie d'ensemble qui définirait les liens futurs de coopération entre les deux organisations. La CEDEAO ayant pris acte de la décision des trois pays de la quitter, nous avons à cet effet la responsabilité de prendre toutes les dispositions pour faciliter les échanges. Déclaration ce matin de Karamoko Jean-Marie Traoré, le chef de la diplomatie burkinabé, lors de l'ouverture de cette réunion. Elle était ancienne ministre des Affaires étrangères du Ghana. Anna Serwa Tété est nommée émissaire de l'ONU en Libye. Nouvelle tentative onusienne pour sortir la Libye de la crise. Nouvelle car c'est déjà la 10e diplomate à occuper ce poste sensible depuis 2011. Elle succède au Sénégalais Abdoulaye Batili qui lui a jeté l'éponge en avril dernier en déclarant que les Nations Unies ne pouvaient agir avec succès car les dirigeants libyens placent leurs intérêts personnels au-dessus des besoins du pays. Pour Hasni Abidi, le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. La tâche de cette nouvelle émissaire s'annonce donc très complexe, mais l'espoir pourrait venir de l'élection de Donald Trump, il l'explique à Guillaume Thibault.
C'est une mission compliquée et très délicate qui attend la nouvelle représentante et la chef de mission des Nations Unies en Libye, Madame Tété. C'est vrai qu'elle connaît très bien l'Afrique, mais cette mission exige d'autres compétences et notamment l'appui des grandes puissances international. L'avantage de cette nomination, c'est qu'elle intervient dans un vide total. Un point probablement qui est nouveau, c'est que la nomination de Madame Tité coïncide avec l'arrivée de président Trump. Et on sait que probablement la Libye est le seul État en Afrique du Nord et au Sahel qui va susciter l'intérêt parce que les Russes ne sont pas loin et parce que aussi il y a des intérêts géopolitiques et surtout économiques. Probablement avec le président Trump et la nomination d'un nouvel ambassadeur, les choses peuvent avancer. Il ne faut jamais oublier qu'un des protagonistes, le maréchal Haftar, est détenteur d'un passeport américain.
Et il est 7h43 à Washington, la capitale fédérale américaine, qui vit donc depuis lundi au rythme des décisions du nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, parmi les nombreux décrets signés dans la foulée de son investiture, celui mettant en pause pour 3 mois l'aide à l'étranger des Nations Unies. C'est le temps, précise le nouveau secrétaire d'État, Marco Rubio, d'évaluer si les programmes d'aide américains sont conformes à la politique du nouveau président. L'Égypte et Israël ne sont pas concernés. La décision exclut également l'aide alimentaire d'urgence. Il n'en reste pas moins que cette annonce est une menace pour une série de programmes d'aide en Afrique. Le spécialiste des enjeux de développement Fabrice Ferrier rappelle ce chiffre, près d'un quart de l'aide américaine, 17,4 milliards de dollars en 2023, est dirigée actuellement vers le continent.
L'aide américaine se concentre tout particulièrement sur le continent africain et les États-Unis sont le premier bailleur auprès de l'ensemble des pays du continent africain. Donc, ce qui peut être menacé, c'est d'une part l'accès à la santé. Les États-Unis financent des grands programmes et organisations en matière de santé. Donc, tout particulièrement la Gavi, qui est l'alliance du vaccin, qui finance l'accès à la vaccination d'un enfant sur deux dans le monde. Les États-Unis financent également des programmes en matière d'égalité femmes-hommes et les politiques d'accès à la contraception. Il s'avère que durant la campagne présidentielle, les équipes de Donald Trump ont envisagé de réactiver une procédure qu'on appelle le Global Gag Rule ou règle du bâillon mondial qui interdit le financement public d'organisations finançant des soins ou des informations liées à l'avortement et à la santé sexuelle. Voilà, dans la mesure où les États-Unis financent l'accès à la contraception dans le monde, il pourrait avoir un impact colossal pour des millions de femmes, tout particulièrement sur le continent africain.
Fabrice Ferrier, directeur de Focus 2030, un think tank spécialisé dans les enjeux de développement joint par Nicolas Feldman. Si l'aide internationale baisse, il faudra alors compter sur ses ressources propres. Au Nigeria, ce sont les hydrocarbures. Le pays est déjà le plus important producteur de pétrole du continent. Et la production pourrait reprendre en terre Ogonie, dans le delta du Niger, pourtant déjà très pollué par les hydrocarbures. Selon un communiqué de la présidence nigériane, le gouverneur de l'état de Rivers a en tout cas plaidé pour, lors d'une réunion réunion organisée à la villa présidentielle à Abuja cette semaine avec des représentants du peuple Ogoni mais aussi de la NNCPL, PCL, la Compagnie Nationale Pétrolière. Pauline Glaise, une réunion vue d'un très mauvais œil par une vingtaine d'organisations de la société civile.
Depuis les années 1990 et des manifestations contre un nouveau projet d'oléoduc de Shell, le pétrole n'est plus extrait du sous-sol des terres Ogoni. Depuis longtemps, des velléités de reprise se font entendre, explique Alex Soul, spécialiste du delta du Niger, mais il constate une accélération du processus.
En décembre, le gouvernement a approuvé la vente de sites appartenant à Shell à un consortium nigérian. Et je crois que cette discussion sur une reprise de la production dans cette zone, cela vient de cet accord. C'est le résultat de l'arrivée de la nouvelle compagnie qui a dit que c'était un atout important et que maintenant que Shell est techniquement hors jeu, il fallait essayer et le faire à la manière nigériane.
Mais une vingtaine d'organisations de la société civile s'offusquent de cette réunion. Célestine Akpobari, responsable du People Advancement Center et défenseur des droits de l'environnement.
Le président du Nigeria devrait arrêter tous les plans visant à reprendre l'extraction sur les terres Ogoni tant qu'il n'y a pas une consultation significative avec le peuple Ogoni et tant qu'il n'y a pas une restauration complète de l'environnement.
Les organisations demandent également le versement de 1000 milliards de dollars pour le nettoyage du delta du Niger et pour indemniser la population.
Dossier suivi par Pauline Glaise du service environnement des RFI. Et à propos du Nigeria encore, cette dernière minute, au moins 27 soldats tués, plusieurs autres grièvement blessés dans le nord-est du pays par un attentat suicide à la voiture piégée. Il a eu lieu hier soir. Vendredi, l'armée avait lancé une offensive contre un bastion du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, dans cette même région. Du football, suite ce dimanche de la 23e journée de Premier League en Angleterre, parmi les rencontres au programme, Manchester United contre Fulham à 19h TU. Des mancuniens, c'est ainsi que l'on appelle les habitants de Manchester, qui comptent notamment sur leur atout ivoirien, Amad Diallo. 9 buts et 7 passes décisives en 31 matchs pour l'ailier de 22 ans, qui a donc gagné le respect des supporters britanniques. Et fait aussi l'admiration des fans des éléphants, en particulier à Adjamé Château d'Eau, son quartier d'origine à Abidjan. Yoann Gourlier s'y est rendu.
À la Leader Foot Academy, les jeunes pépites de la commune d'Adjamé s'entraînent dans la rigueur et la bonne humeur. Tous veulent évidemment suivre les traces de la star de l'académie, Amad Diallo, comme Habib Ben Kamagaté, 16 ans.
C'est une icône du football ivoirien. En plus, jouer dans le même académie que lui, ça motive et ça encourage à jouer comme lui. Forcément, je suis fier.
À l'époque, Amad Diallo est recruté par l'académie dès l'âge de 8 ans, lors d'un tournoi de quartier. Il n'est alors pas le meilleur de la Leader Foot, mais est décrit comme un joueur rapide et appliqué. Alors que sa famille a des difficultés financières, le jeune Amad quitte la Côte d'Ivoire pour l'Italie à l'âge de 12 ans, avec son coéquipier Ahmed Junior Traoré, qui évolue aujourd'hui à l'AJ Auxerre, et Ahmed Mamadou Traoré, oncle de ce dernier, et président de l'académie.
Les enfants, ils partaient à l'école, ils faisaient les loisirs. Il y a la Juventus qui était intéressée, il y a Rome qui était intéressée. Le club même, ils étaient prêts, ils mettaient beaucoup d'argent. Amad a proposé Juventus. Ben, il dit, pour moi, rien de tout cela. Toi, tu vas à Atalanta. Les gens, ils sont prêts à donner beaucoup d'argent, mais ici, l'argent, ça se gagne après.
Une histoire avec son pays d'adoption controversée puisqu'il a été épinglé par la justice italienne en 2021 pour avoir falsifié ses papiers d'identité afin de se rendre en Italie. Il y indiquait qu'il était le frère d'Ahmed Junior Traoré et le fils du président de l'Académie. Aujourd'hui, tout le monde veut tourner la page et Amad Diallo semble libéré de ses tracasseries. La pépite ivoirienne vient même de prolonger avec Manchester United jusqu'en 2030. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Manchester United à Fulham, c'est à 19h TU, c'est donc dans un peu plus de 6h puisqu'il est 12h48 en temps universel. L'Afrique en marche dresse ce dimanche le portrait d'un talent de l'architecture au Mali. Mariam Sy est l'une des figures de l'architecture ouest-africaine. Elle réussit à allier la modernité des bâtiments avec les techniques ancestrales de construction à base de terre. Résultat, Frédéric Gara, une construction adaptée au climat subsaharien et respectueuse de l'environnement.
L'Afrique en marche.
À 15 ans, j'ai dit à mes parents, je veux être architecte. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Et j'ai dû sortir de l'école de jeunes filles pour aller faire un lycée professionnel à Bamako.
Après ce lycée technique, Mariam Sy obtient son diplôme d'architecte en Belgique et enchaîne une formation complémentaire en France, à Grenoble. Mariam, devenue aujourd'hui l'une des références en matière d'architecture traditionnelle, c'est d'ailleurs à Grenoble, au centre de recherche et d'application en terre, le Cratère, que cette quadragénaire a perfectionné son savoir-faire avec l'usage des matériaux traditionnels.
Que ce soit la terre, la pierre ou tout ce qu'on peut trouver localement, l'idée c'est vraiment d'utiliser le moins d'énergie possible pour construire et d'utiliser avec le matériau adéquat pour la température du lieu. Et il s'avère qu'au Mali, la terre est un des matériaux locaux les plus répandus et les plus connus. L'avantage pour nous, sahéliens, c'est un matériau qui s'adapte vraiment à notre climat.
Dès lors, à Bamako, Mariam Sy, au sein de son cabinet architecte, multiplie les constructions de maisons ou de centres médicaux, mais aussi la rénovation de mosquées, notamment à Tombouctou, une technique architecturale qui séduit de plus en plus de clients au Mali, mais aussi en Afrique.
Cette question d'architecture éco-responsable, c'est une question qui concerne tout le monde, même si au Sahel, on sait qu'on n'est pas les plus gros consommateurs d'énergie, on subit quand même les conséquences de cela. Donc, il est important qu'on prenne en compte aussi les nouvelles technologies, les questions qui se posent à tout le monde et qu'on se l'applique à nous.
C'est presque un acte militant que vous faites en étant architecte.
Bien sûr. On considère que voilà, nous sommes des militants au niveau du réseau FACT Sahel dont je vous ai parlé. Pour nous, vraiment, le travail qu'on fait, c'est du militantisme.
Ouais. Dans ce réseau, il y a des architectes, mais pas que des architectes.
Non. Il y a des maçons, des ingénieurs, des architectes, des étudiants, des chercheurs, des écrivains. Vraiment, on est un réseau.
Il y a toute une réflexion autour de ces enjeux-là.
De comment expliquer aux gens le retour donc à ces matériaux et qui ont vraiment beaucoup beaucoup d'avantages sur beaucoup d'aspects de la vie, pas seulement sur la construction.
Au sein de l'association FACT Plus qu'elle a cofondée, Mariam Sy participe à cette réflexion à propos d'un retour aux techniques africaines de construction adaptées à un monde moderne, ce qui correspond à un mouvement de fond, comme l'explique un autre architecte français, Jean-Marc Lalot, qui organise régulièrement sur le continent africain des séminaires d'échange entre architectes des deux continents.
Il y a à la fois une question d'identité architecturale africaine, un engouement pour retrouver des techniques traditionnelles de construction en terre. Et puis la deuxième chose, c'est aussi un des points d'avenir de l'Afrique, c'est de faire un saut directement vers des constructions avec des matériaux biosourcés, des matériaux locaux. Et la terre est parfaitement adaptée à ça, en fait. En fait, il y a eu plusieurs architectes africains qui ont beaucoup travaillé sur ces points. Hassan Fati, par exemple, en Égypte, avait beaucoup lancé ses projets autour de la construction en terre. Mais par contre, depuis que Francis Kéré a reçu le prix Pritzker, il y a des choses qui bougent. Il y a des pays qui mettent ça en avant, qui veulent effectivement aller vers cette direction-là. Je pense au Bénin, le Sénégal. Alors, il y a le Maroc aussi, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Il y a un centre de la construction en terre au Maroc qui a été ouvert il y a quelques années. Et puis le Bénin, le président a fait quelques commandes à Francis Kéré, dans l'Assemblée nationale, qui était basé beaucoup sur l'utilisation de la terre, avec le BTC, la brique de terre comprimée. Et là, on le retrouve au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso aussi.
Prochain projet pour Mariam Sy qui allie modernité, usage des techniques traditionnelles et conception éco-responsable, un centre scolaire en terre à Bamako, histoire que l'architecture durable continue de faire école au Mali.
L'Afrique en marche.
Et après Frédéric Garat sur les chemins d'écriture ce dimanche, rencontre avec l'œuvre de Chimère Chinodia, romancier nouvelliste du Zimbabwe. Avec une dizaine de titres à son actif, il s'est imposé comme un auteur majeur des lettres africaines. Mais son recueil « Peut-on se parler ?» et « Autre histoire » est le premier ouvrage à paraître en français. Thiers Tankarchanda, pourquoi faut-il lire « Peut-on se parler ?»
Écoutez, j'ai envie de répondre pour le bonheur de lecture, tout simplement. Voyez-vous, Chimère Chinodia est un conteur né, comme en témoignent ses romans parus depuis les années 1980. Son tout premier roman, Dew in the Morning, en français, La Rosée du Matin, qu'il a écrit à l'âge de 17 ans, ou encore son opus Harvest of Thorns, La Récolte des Épines, portant sur la guerre d'indépendance au Zimbabwe, l'ont imposé comme une voix majeure. Ses récits racontent avec un souci d'urgence, la fragilité du quotidien, mêlant avec brio, émotion et événements, le réel et le surréel. Cette voix perspicace, on la retrouve dans les nouvelles qui viennent de paraître, qui sont à la fois des témoignages et des analyses psychologiques et sociales. En voici une illustration avec un extrait lu par la traductrice française de Chimère Chinodia, Annick Garache-Gouvernel. Lecture.
Au premier abord,
Il semblait n'être qu'un de ces insupportables frimeurs qu'on rencontre autour d'un braille. Ceux qui connaissent toutes les histoires et anecdotes qui courent. Ils se font payer des verres, regardent les partenaires des autres et se brûlent les doigts sur le port grillé des autres. Celui-ci, 25 ans environ, petit, mince, était plutôt sympathique, audacieux, peu soucieux de son apparence avec, malgré tout, son téléphone portable accroché à son jean.
On l'entend, hein, c'est une écriture très visuelle. Qu'est-ce qu'un braille où est campée la nouvelle ?
Braille, c'est un terme en afrikaans désignant un barbecue collectif populaire. Le passage que nous voulons écouter est extrait de la nouvelle intitulée « Cascade ». L'histoire que raconte cette nouvelle est représentative de l'atmosphère qui règne dans ces pages entre réalisme cru et le basculement dans le surréel, voire le fantastique. Ici, l'histoire se déroule dans un township autour d'un braille où un jeune homme mi-ivre, mi-fanfaron se vante de ses conquêtes féminines. Pour la suite, parole à la traductrice Annick Garache-Gouvernel.
Le narrateur, il est autour d'un barbecue, là. Il sait pas quoi faire, il s'ennuie. Et il se rapproche de tout un petit groupe qui écoute quelqu'un qui raconte des histoires. L'histoire, c'est quand il a pris des filles dans sa voiture. Il veut passer un bon moment avec elles. Ils boivent de la bière, ils prennent des drogues et tout ça. Puis elles lui disent, allez, on va aller à cet endroit-là qu'on connaît. Et ils y vont, ils se baignent. Et puis, d'un seul coup, une des deux filles se transforme presque en sorcière. Il se passe quelque chose d'incroyable qui fait peur. C'est le monde de l'étrange, là, ou du fantastique, d'un seul coup.
Tiens, Tankar, à part cette incursion dans le fantastique, quels sont les autres thèmes abordés dans ce recueil ?
Les 11 nouvelles que comporte ce recueil offrent un panorama des préoccupations de l'auteur qui vont de la guerre à l'enfance cruelle, en passant par les injustices et inégalités sociales, incarnées par des personnages attachants qui parlent le langage simple de la terre et de la vie, comme l'écrit la traductrice dans la postface du recueil. C'est dans la bibliothèque paternelle, composée de 3 étagères de livres, que le jeune Chimère a lu ses premiers classiques. Ils lui ont inculqué le goût de l'écriture et cette conviction qu'il a fait depuis sienne, selon les mots de l'auteur en personne, la mission principale de l'art est d'élever et de vivifier l'esprit.
Peut-on se parler et autre histoire par Chimère Chinodia, paru aux éditions Projectile, coup de cœur de Tirthankar Chanda. 100% création clôt sa série spéciale autour des métiers qui ont contribué au chantier de Notre-Dame de Paris après son incendie dévastateur en 2019. Rencontre aujourd'hui avec Elodie Schneider, vitrailliste. Elle raconte son art à Maria Afonso.
Même en étant spécialisée dans le vitrail, il y a énormément de choses différentes et de créations aussi à faire. Elodie Schneider, vitrailliste et fondatrice de l'atelier Les Aventures Verrières. C'est vraiment un métier où il faut se concentrer. Quand on démonte un vitrail, il faut faire attention à pas casser de pièces, à bien jeter ses plombs, à porter un masque pour se protéger parce qu'il y a aussi tout l'aspect santé, hygiène. Avoir un petit côté créatif si on souhaite faire de la création. Et en restauration, être passionné, c'est un peu la base.
Originaire d'Alsace, Elodie Schneider a vécu dans la région du parc naturel des Vosges du Nord, riche d'histoires autour des métiers du verre. Elle a été fascinée très jeune par le travail du verre et après des études en art plastique, elle s'est tournée vers le vitrail qui allie technique et créativité. Après cette formation, Elodie Schneider entreprend un tour de France à vélo pour découvrir ses multiples techniques. C'est cette soif de découverte qui l'a amenée sur le chantier de Notre-Dame de Paris.
J'étais en stage à la Domkapelle Köln, donc les ateliers de la cathédrale de Cologne. C'est un très chouette lieu, il y en a une petite vingtaine partout en Europe. On en a une en France, elle est à Strasbourg. Elles ont toujours été là, ces Domkapelle, parce qu'il y a toujours à restaurer. Ça permet des archives, un travail d'une très haute qualité avec des gens qui sont pointus dans leur domaine et qui sont surtout passionnés par ce qu'ils font. Et pendant ce stage, Notre-Dame de Paris a brûlé. Le monde entier a été très touché et les Allemands m'ont dit « Mais Elodie, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider concrètement ?» 2 ans plus tard, l'un des chefs de la cathédrale de Cologne m'appelle pour être avec eux pour travailler sur le chantier Notre-Dame de Paris. Il y a eu des cagnottes. Simplement, au lieu de juste donner les sous, ils ont dit « Nous, on voudrait aussi donner notre savoir-faire. » Il y a 4 baies, un lot qui a été transporté en Allemagne et restauré outre-Rhin.
Elodie Schneider s'est appuyée sur des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, afin d'analyser les gestes de l'artiste et maître verrier Jacques Le Chevalier qui a créé entre 1961 et 65 les vitraux qui ont fait l'objet de la restauration.
On a pu retrouver vraiment visuellement les gestes qu'il utilisait
et les outils aussi. Et c'était génial avec ses collègues allemandes de voir toute cette passion et cette envie de reproduction à l'identique. Ça a été tout un travail aussi de trouver les recettes, de retrouver les teintes.
Retrouvez l'univers d'Élodie Schneider sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Mickaël Goncalves, rédaction en chef Karine Franck, avec Cécile Périllard. Dans quelques secondes, le retour de l'info en français, en full day ou en portugais, suivant l'endroit du monde où vous nous écoutez. C'est aussi ça la richesse de Radio France Internationale. Merci à vous d'être toujours à l'écoute des RFI.